تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock'n'Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine culturel. Moi je lis et avec vous je partage, pour ce faire j'interviewe les auteurs, je chronique les bouquins et puis je vous propose une playlist musicale par ouvrage évoqué histoire de vous restituer des univers sans cloisonner ni les gens ni les genres. Et puis que, plus comme... parce que plus on est de fous et plus on rigole. Je me suis entourée cette saison de chroniqueurs, trois. Il y a Mademoiselle Amo qui redéfinit une fois par mois son mot à elle, à sa manière à elle. C'est un peu énigmatique et moi j'aime ça. Ensuite on a Catherine Rochette qui elle est une passionnée de cinéma. Et enfin, et ce sera le cas dans ce numéro de Rock'n'Page, Bibliomanu qui lui, dans sa chronique À la frontière des genres, se charge de nous filer la chair de poule avec les littératures science-fiction et polar. Aujourd'hui, et vous l'aurez constaté peut-être maintenant, disons tout ce mois de mai et tout ce mois de juin, moi je laisse mon micro à ceux qui ont encore assez d'énergie et qui ont encore envie de se bagarrer pour proposer soit des festivals, soit des cycles de soirées. Ce sera le cas aujourd'hui puisque je reçois dans Rock'n'Page Pierre Thomy, qui est l'organisateur, un des organisateurs de Rock It to the Moon, ces soirées qui font la part belle à la pop indie à Montpellier. Et en parlant de combat, et avant de recevoir Pierre Thomy, laissez-moi vous lire, une fois n'est pas coutume, l'édito qu'a signé Céline Covey pour l'agenda du magazine du fanzine culturel gratuit Leitmotiv. Ça va y rejoindre tout à fait, elle a su écrire ce que je pense. Moi je trouve qu'on est à une époque où en fait on dit beaucoup du mal des uns des autres par pure jalousie. Là c'est juste son édito, une merveille, et je prends la peine de vous le lire. Alors, le mois de ce numéro-là est consacré au mois de mai, donc le titre c'est « Fais ce qu'il te plaît ». La question n'est pas vaine si l'on considère que sa liberté personnelle s'arrête là où commence celle des autres et qu'elle s'éprouve au quotidien à tous les niveaux. Sans se positionner en parangon de morale, jargon d'ailleurs révolu et délétère, il est judicieux de rappeler que si la saison s'est transformée en hécatombe pour beaucoup de structures culturelles, il reste encore des ressources. N'annonçons pas l'égorgement de l'événementiel qualitatif et singulier. Ne crions pas à la mort des médias modestes et indépendants. Ne nous roulons pas dans l'attentisme et livrons bataille. S'il faut développer de nouveaux moyens de communication, d'accès et de passerelles, arrachons-nous les ongles et les cheveux pour le faire. Parce qu'au final, si des voraces s'engraissent tandis que nous nous serrons durablement la ceinture, leurs chaises dorées sont des machines à clous. Préférons mutualiser ce qui peut l'être et mobiliser les forces vives qui rugissent encore partout. Les compromis ne sont pas forcément erratiques et n'impliquent pas automatiquement le vide substantiel. La preuve par 100. Si l'on a bien conscience que nombre d'associations, d'institutions et d'acteurs culturels se saignent pour y arriver, c'est avec eux qu'on met les doigts dans la prise. C'est signé Céline Covey. Voilà, c'était Jessica 93 pour accueillir, comme il se doit, Pierre Tommy, l'un des organisateurs des soirées qui font la part belle à la pop indie sur la scène montpelliéraine, les soirées Rock It To The Moon. Pierre Tommy, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page.
Bonjour, merci à vous.
Vous êtes l'un des fondateurs de l'épopée Rock It To The Moon, ou comment l'indie pop est arrivé enfin à Montpellier. Racontez-nous un petit peu comment est née cette aventure.
Alors, l'aventure est née en 2005. J'étais étudiant à l'université Paul Valéry et j'ai lancé des soirées qui au départ étaient juste des soirées dans des bars avec un ami étudiant. Et on a rencontré assez rapidement l'équipe l'équipe de Fresh Licot qui organisait à l'époque, voilà, le Worldwide n'existait pas encore, c'était juste avant. Et ils nous ont beaucoup aidés à trouver des endroits où jouer. Et puis, plus tard, ils nous ont ouvert les portes du Rock Store pour y organiser des concerts.
Vous proposez alors justement des concerts, mais aussi des soirées. Expliquez-nous déjà à vous la différence que vous vous attachez à créer entre les deux univers. Et pour les concerts, plus précisément, comment est-ce que vous travaillez sur les programmations? On sent bien que vous cherchez à éviter à tout prix, et c'est ça qui fait, moi je trouve, la grande réussite de vos soirées, l'élitisme. Vous cherchez à éviter l'élitisme, et ça, punaise, ça fait du bien. On peut croiser autant Tellier que Cancun, quoi, chez vous.
Merci, c'est gentil. Mais oui, en fait, on veut... les soirées, au départ, c'était à la fois pour vraiment s'amuser, parce qu'on aime faire la fête, mais s'amuser en écoutant des choses un peu différentes de ce qui peut passer dans les clubs habituellement. Et puis pour les concerts, on fait passer un peu, on essaie en tout cas de faire passer un peu tout ce qu'on aime. Et on aime à la fois, Tellier et Cancun, et on peut aimer des choses très, très grand public, ou un peu commercial de temps en temps, hein, pas peur de le dire. Mais ça n'empêche pas aussi de vouloir faire découvrir des choses beaucoup plus pointues, qui sont pas pointues pour être pointues. On n'est pas là vouloir éduquer les gens ou ce genre de choses. C'est vraiment les artistes qu'on fait jouer, on les aime, on aime vraiment les écouter nous en tant que ou les voir nous en tant que spectateurs. Et on se dit que si nous on aime, il y a d'autres gens qui peuvent aimer.
Okay.
Et la programmation se fait un peu comme ça.
Les scènes qui servent vos soirées et vos concerts à Montpellier, alors vous en avez parlé, il y a le Rock Store, la Secret Place aussi, le Black Sheep, je ne sais plus trop si ça suit, mais est-ce que l'ouverture de la Paloma à Nîmes et sa programmation qui peut aussi quand même servir la scène indie, notamment avec leur festival là qui arrive, est-ce que ça a relancé la machine Rock It To The Moon?
C'est un peu plus compliqué. Ça nous a pas énormément aidé, on va dire. Alors disons que c'est très intéressant d'avoir des tournées de groupes aussi intéressants qui viennent dans le sud, parce que c'est des groupes qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi souvent. Mais après, c'est compliqué de faire une programme. Enfin, disons que c'est une concurrence assez rude avec Paloma. Mais bon, vu que nous, c'est quand même quelque chose de passionné, qu'on fait pas ça, on est fan avant de penser business ou ce genre de choses, on le voit comme une émulation.
Alors, vous vous apprêtez à nous offrir, là vous venez d'accueillir, et on l'a entendu juste avant l'interview, Jessica 93, qui est en soi énorme. Parlez-nous un petit peu des concerts du 14 mai et du 2 juin.
Alors le 14 mai, c'est Bror Gunnar Johnson, qui est un bluesman, donc ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, qui est quand même assez rock d'habitude. C'est un bluesman suédois et qui a la particularité d'être seul sur scène et de jouer batterie, guitare, chant à la fois. Donc ça va être, je pense, assez énorme en live. En première partie, ce sera des locaux Mike Redbull, Cadillac, un duo assez jeune, beaucoup plus rock pour le coup, qui a joué d'ailleurs avec Jessica 93 à Nîmes il y a quelques jours, avant la date de Montpellier. Et pour le 2 juin, c'est JC Satan, un groupe rock garage bordelais, qui est issu d'une scène assez foisonnante à Bordeaux, de garage en général. En première partie, là, c'est un gros coup de cœur qu'on a eu récemment. C'est le plus vieux groupe montpelliérain qu'on ne connaissait pas, on va être honnête. Qui s'appelle le Rob Joe Star Band, et qui a sorti un seul et unique album en 73, qui était un peu perdu. Nous, c'est un journaliste du Midi Libre qui nous a parlé de ce groupe. Qui s'est reformé récemment. Enfin, je ne sais pas si on peut parler vraiment de reformation, parce que le groupe a eu une existence vraiment très éphémère dans les années 70. Qui revient à Montpellier en 2015. Donc, on est très curieux de voir ça.
Super, ben voilà deux rendez-vous qu'on note dans nos agendas. Est-ce que vous pourriez nous donner un de vos meilleurs souvenirs Rock It to the Moon et puis un rêve en matière de programmation?
Alors, des souvenirs, il y en a quand même pas mal. Moi, ça, pour le coup, c'est vraiment très personnel. J'ai passé une excellente journée avec Calexico, par exemple. C'est un groupe dont on était tous fans.
Ouais.
Et ça nous impressionnait un peu de recevoir Calexico, parce qu'on reçoit quand même...
Oui, ça a été une
grosse... Si on a parlé de Sébastien Tellier, ouais. On a quand même plus souvent des groupes un peu plus...
Confidentiels.
Et donc là, Calexico, ça nous impressionnait. Et puis c'était les gens les plus adorables de la Terre, qui étaient ravis d'être là, contents de tout ce qu'ils faisaient, du restaurant, de la salle, de l'accueil. Et donc voilà, ça c'était vraiment un très bon souvenir. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment les faire revenir. Et un rêve... On a tous un peu nos groupes fétiches. Alors moi, il y a un groupe que j'aimerais faire, c'est Layard, parce que c'est un de mes groupes préférés. Et puis, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est de faire jouer Electrelane, qui est un groupe qui a donné le nom aux soirées, en fait. Rock It to the Moon, c'est le nom du premier album d'Electrelane. Un groupe de filles anglaises qui s'est séparé et qu'on connaissait un peu. Enfin, on leur a demandé l'autorisation pour avoir utiliser ce nom-là, nous l'ont donné. On s'est toujours dit que pour un anniversaire, des soirées ou quelque chose comme ça, on aimerait les faire venir. On en a déjà parlé, ça n'a pas pu se faire, mais bon, je ne devais faire pas.
Parfait, bon, écoutez, notez Time Impala et Godspeed Your Black Emperor, si vous avez un crayon avec vous, ça me ferait plaisir aussi.
Alors Time Impala, c'est aussi un rêve, et Godspeed, c'est un rêve peut-être plus accessible, c'est loin d'être fait, mais en tout cas, ils seront dans le sud de la France en novembre, et je pense que ce sera soit chez nous, soit à Nîmes, mais en tout cas, ils devraient être dans le coin.
Oh mon Dieu, merci beaucoup, merci. Merci infiniment d'avoir répondu à cette interview, et puis rendez-vous le 14 mai alors.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.
Mimi, Jesus, Mimi, Mimi, the melodía. Near my wings, I feel me. Won't you meet me with another pair? Mimi, mother, father, Mimi by the river road. No more money, I'll be there when I'm sick of my load. There ain't no good, gonna hold my money down. There ain't no good, gonna hold my money down. There ain't no good, gonna hold my money down.
Sans transition aucune et ravie, maintenant que je suis ravie d'avoir accueilli Pierre Thomy, l'organisateur des soirées rock Eat to the Moon, je cède ma place, mon micro, mon fauteuil, mon studio à Biblio Manu.
Merci Marie-Pierre, bonjour et bienvenue à La Frontière des Genres. Pas d'interview prévue aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, cela ne nous empêchera pas de parler polar et SF, à moins que ce ne soit de SF et de polar. C'est apparemment la même chose, me direz-vous, mais en êtes-vous bien sûr ? Que se passe-t-il quand les deux genres se fondent dans une seule et même histoire ? Le mélange prend-il ? On est en droit de se poser la question quand on sait combien les codes de l'un et de l'autre peuvent s'avérer diamétralement opposés. Autre question qui vient à l'esprit quand on imagine ce mélange des genres, l'un des deux ne va-t-il pas prendre l'ascendant sur l'autre au point de rendre le récit bancal, voire même peu crédible, voire insipide ? Les histoires de ce type ne sont pas nombreuses. Enfin, n'étaient pas si nombreuses que ça. Au catalogue des histoires mêlant polar et SF, pour n'en citer que quelques-unes, il y avait bien eu l'anthologie Détective de l'impossible, signée Stéphane Nicot, dans laquelle les noms de l'ASF s'adjoignaient ceux du monde du polar. C'est ainsi que Joanne Elliott, Roland Wagner, Thierry Di Rollo, Didier Deninx et Jean-Bernard Puy apparaissaient dans le sommaire du recueil. On a rarement vu cela depuis, et dans le même ordre d'idées, je ne peux pas ne pas nommer le très célèbre Fatherland de Robert Harris, roman uchronique, qui voit se dérouler une enquête policière en 1964, 20 ans après la victoire de l'Allemagne nazie sur les Alliés. Et parmi les exemples, il serait sacrilège aussi de ne pas citer le magistral Les Racines du Mal d'un certain Maurice Dantec, qui fait lui aussi la part très belle à la fois au polar et à la science-fiction, avec notamment la présence d'une intelligence artificielle redoutable. Les exemples sont là, et il y en a bien sûr d'autres, souvenez-vous d'Isaac Asimov. Cependant, depuis quelques années, il semble que la machine s'emballe et que les auteurs s'approprient les genres de manière assez aisée, sans que cela ne nuise ni au polar, ni à la science-fiction. Il n'y a qu'à jeter un petit coup d'œil sur le catalogue de certaines structures, dont certaines, à l'image des éditions Super 8, jouent clairement le jeu de la frontière des genres, pour s'en apercevoir. Il ne suffit pas pour cela de remonter bien loin. Deux livres parus le même jour, le 12 mai 2015, pour être précis, chacun ouvrant la voie à une trilogie, s'inscrivent parfaitement dans cette tendance. On commence avec « Dernier meurtre avant la fin du monde » paru aux éditions Super 8 de Ben Winters, qui livre un bouquin diablement bien fait, tant au niveau de la forme que du fond. Comme le titre français l'indique si bien, il y a un meurtre, alors même que la fin du monde approche à grands pas. Dans 6 mois, un astéroïde va éradiquer toute vie sur Terre. Et alors que les vagues de suicides sont légion et ne relèvent presque plus que de l'outil statistique, Hank Palace se trouve confronté à une mort étrange, celle d'un agent d'assurance, retrouvé pendu dans les toilettes d'un McDo. Et la question se pose effectivement, qui donc aurait donc intérêt à tuer son prochain quand bien même toute vie sur Terre aura disparu d'ici au moins d'un an ? Pourtant, Palace s'accroche. Homme droit, consciencieux, il œuvre pour que la vérité éclate, il ne renonce jamais. Car renoncer, c'est en quelque sorte laisser toute latitude à la peur et à l'obscurité de le submerger, comme elle en a submergé bien d'autres avant lui. Le pari est réussi pour Ben Winters, qui manie à merveille les ficelles du suspense, nous maintient dans une ambiance polar sombre et opaque jusqu'à son dénouement, tout en adjoignant à cette ambiance un environnement crédible et glacial de fin du monde, où chacun essaie de sortir son épingle du jeu comme il peut, chaos et folie n'étant jamais loin. Dans Les Brillants, L'autre livre, paru à la série Noire, collection On ne peut plus ancrée dans le polar, Marcus Sacquet aborde quant à lui l'aspect science-fictionnel avec des éléments qui pourront avoir des airs de déjà-vu. Mais qu'importe, ceux-ci ne servent que de prétexte à dépeindre une société américaine actuelle pour le moins chamboulée, et le fait de les inscrire dans ce contexte du thriller fonctionne plutôt pas mal. Depuis les années 80, là je reviens à l'histoire, 1% de la population naît avec des dons exceptionnels. Devenus adultes, les brillants, c'est comme ça qu'on les appelle, ont su pour certains tirer leur épingle du jeu de leur capacité, au point d'en user et d'en abuser, au point de susciter la crainte de leurs congénères. Nick Cooper est lui aussi un brillant, œuvrant pour le gouvernement. Il traque les siens, ceux en tout cas qui se sont mis hors la loi et ont, semble-t-il, rejoint les rangs d'un homme cherchant à opposer brillants et normaux. Un homme qu'il s'est juré de capturer, John Smith. Dans cette opposition de surdoués et de citoyens lambda, dans l'évocation de lois permettant de traquer les brillants, on pense bien évidemment aux X-Men. Il y a d'un côté ceux qui veulent vivre une vie normale, se fondent dans la masse, s'assument et luttent pour leur reconnaissance, et ceux enfin qui entrent en guerre ouverte avec quiconque se mettrait en travers de leur chemin. L'analogie s'arrête heureusement là, car Marcus Sacquet préfère s'attarder sur l'ambiguïté des médias, de l'information, sur la manipulation des masses, la théorie du complot, la limite des libertés individuelles. Il y a de quoi faire dans ce roman, et là où l'auteur s'en sort extrêmement bien, c'est en faisant en sorte que les éléments se fondent dans l'histoire, tout en laissant une part belle aux personnages et à leur psychologie de se révéler. Voilà. Ne serait-ce qu'à travers ces deux exemples, je pense que vous ne devriez pas craindre de vous frotter à la frontière des genres. Elle laisse la possibilité de se frotter à des contrées insoupçonnées, alors n'hésitez pas.
Voilà, Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Merci à Bibliomanu pour sa chronique à la frontière des genres. Merci à Pierre Thomy qui continue de nous faire danser et découvrir de la pop indie pour ses soirées Rocky to the Moon. Merci à Céline Covey d'avoir signé cet édito de l'agenda Leitmotiv du mois de mai qui est juste terrible. Je vous laisse en compagnie de Orange Blossom, ma façon à moi de dire à Monsieur Ménard que je m'appelle Marie-Pierre Soriano. Voilà, Soriano, ça, il peut le mettre dans son tableur Excel et le surligner en jaune. Moi, je l'emmerde, Monsieur Ménard. Je vous laisse avec Orange Blossom, qui seront magnifiques. Je vous conseille d'aller les voir le 22 mai dans le cadre du festival Arabesque, où l'on convie aussi chaleureusement Monsieur Ménard. Allez, prenez bien soin de vous.
How come I-